Il est 7h03, Bernard, avec la nouvelle stratégie de construction de navires qui a été annoncée hier par Trudeau. Tu peux voir, pour Davy, là, tu peux voir la façon de... En fait, le verre à moitié vide ou à moitié plein. La direction de Davy disait hier, hey, c'est nous autres, on est très contents de ça. Puis le syndicat disait, voyons, on est en train de rire, nous autres.
Oui, exact. En fait, ma première réaction hier, ça a été de dire, on fait rire de nous autres.
Ouais.
OK? Parce que, qu'est-ce que tu veux, les chantiers maritimes de Irving en Nouvelle-Écosse et C-SPAN en Colombie-Britannique se sont déjà partagés pour 100 milliards de contrats en vertu de la stratégie navale, de construction navale. Donc, 100 milliards depuis 2011. Et là, Justin Trudeau leur rajoute un autre 16 milliards et il n'y a toujours pas une scène pour la Davy là-dedans.
Mm.
Bon. Et là, on a d'autant plus l'impression de s'être fait prendre pour des dindes que la semaine passée, qu'est-ce que tu veux, Marc Garneau était de passage au chantier maritime Davy pour annoncer la construction de deux traversiers fédéraux.
Ouais.
Là, tu regardes ça avec le recul, puis tu te dis, dans le fond, c'est un prix de consolation, les deux traversiers. Ils nous préparaient, dans le fond, à la grosse annonce d'hier. Tu comprends? Le taisez-vous, on vous a donné un anane. À cette heure, on arrive avec les gros contrats, les gros navires pour Vancouver et Halifax. Ça, c'est la première réaction. Parce que quand tu prends un peu de recul, tu peux te dire, effectivement, Louis, que c'est peut-être la meilleure nouvelle que la Davy n'a pas eue depuis longtemps, parce que Justin Trudeau annonce justement son intention d'ajouter un troisième chantier naval à la stratégie canadienne de construction navale. Bon, en plus de Irving en Nouvelle-Écosse et C-SPAN, donc en Colombie-Britannique. Et le troisième joueur, selon toute vraisemblance, ça va être la Davy, parce qu'on n'est pas juste le plus gros chantier maritime au Canada, il ne faut jamais l'oublier, mais on est les seuls, dans le fond, qui avons la capacité pour combler le reste de la demande en construction navale pour le fédéral. Hier, il y a quelqu'un à Ottawa qui m'a dit, il dit, la garde côtière là, a besoin de remplacer 30 bateaux d'ici 2030. On en donne 18 à Irving et à C-SPAN. Fais le calcul. Dans le fond, ce qu'on me disait, c'est...
Les autres s'en vont des vies.
Ben c'est ça, mais il y a pas...
Il faut dire que les autres sont saturés, là, Halifax puis Vancouver. Là. Ils peuvent plus en construire plus. Là.
C'est saturé, tu dis?
Ouais.
Et c'est justement ce que j'entends entre les branches. Ça fait partie du calcul d'Ottawa.
Ouais.
On les remplit à ras-bord jusqu'en 2030 de telle manière à ce qu'ils ne peuvent pas contester l'arrivée d'un troisième joueur. Parce que... Dans les faits, là, tu as une sorte de contrat légal entre le gouvernement fédéral et les deux chantiers maritimes d'Halifax et de Colombie-Britannique. Vous êtes nos deux fournisseurs attitrés depuis 2011. Là, le fédéral dit on va rouvrir ça pour permettre l'entrée de Davy. C'est sûr que ça pourrait les exposer à des poursuites. Alors là, ils disent, garde, on te donne de l'ouvrage qu'en 2030, tu peux pas en prendre plus, tu peux pas combler les besoins pour des navires supplémentaires. Et donc, ça justifie qu'on rouvre la stratégie et qu'on fasse rentrer les chantiers maritimes Davy. Alors, on verra, comme dirait l'autre. Il faut qu'il se qualifie, il y aura un appel d'offres, etc., etc.
Il faut que cette stratégie-là soit maintenue ou soutenu par le prochain gouvernement. Là.
Absolument.
Il y a une campagne électorale qui s'en vient. Là, et puis,
tu as bien raison. Cela étant dit, les conservateurs seraient, mauditement, si tu me permets, mal placés pour venir défaire. Parce que, hier, moi, je discutais avec quelqu'un, j'ai dit, coudon, pourquoi vous nous annoncez ça après 4 ans? Vous avez pris 4 ans pour réaliser que vous aviez besoin d'un troisième joueur. Et là, il me dit, garde, il fallait détricoter un peu ce que les conservateurs avaient signé. Il fallait faire la démonstration qu'on avait besoin d'un troisième joueur. Ça prend du temps, etc., etc. Mettons que tout ça est fondé, puis que ça prend du temps, puis tout ça, bon. Parce que, tu sais, t'as quand même 40 députés libéraux, à Ottawa, 40 députés du Québec, plusieurs ministres du Québec. Il me semble que ça aurait pu être un peu plus rapide.
Ouais.
Mais maintenant, je vois mal les conservateurs, s'ils sont élus, venir défaire cet engagement-là puis ce processus-là. En tout cas, Luc, on verra bien, là, on verra bien, mon cher, si ça fonctionne ou pas.
T'as fini par savoir ce qui se cache derrière cette fameuse rencontre entre les ministres des Finances du Québec et de l'Alberta aujourd'hui à Edmonton?
L'inspecteur Clouseau au rapport.
Oui.
Je te livre des résultats de mon enquête.
Ah, oui, donc.
Alors, c'est ce matin à 9h30 que Éric Girard, le ministre des Finances du Québec, rencontre le ministre albertain des Finances, Travis Stoes. 9h30, heure d'Edmonton. Et depuis le début, je soupçonne, alors ça s'inscrit dans une tournée de l'Ouest canadien pour vendre les obligations du Québec, il rencontre ses homologues des autres provinces, mais je soupçonne depuis le début que c'est un prétexte, cette tournée-là, pour amorcer un rapprochement avec l'Alberta.
Ouais.
Et ça se confirme. Ça se confirme. Et non seulement il va rencontrer Taze, le ministre des Finances, mais je viens d'apprendre qu'il rencontre Jason Kenney.
Ah oui?
Oui! Éric Girard rencontre Jason Kenney. Ouais. Et alors, je te donne le background de cette rencontre-là. D'abord, c'est une idée d'Éric Girard. Quelqu'un à Québec me rappelait, Éric Girard, oublie pas, il a été candidat conservateur pour Stephen Harper en 2015. Il a déjà ses lettres de créance conservatrices. Et effectivement, l'objectif, c'est d'amorcer un rapprochement avec l'Alberta et désamorcer un conflit qui pourrait s'envenimer autour, évidemment, de la question de la péréquation, puis autour de la question des pipelines.
Ouais.
Le message de Girard, ça va être le suivant. Sur la péréquation, on n'est pas fiers d'en recevoir et on espère un jour arrêter d'en recevoir. On espère s'enrichir puis un jour pouvoir s'en passer. Mais arrêtez de penser que vous nous faites vivre, l'Alberta. On a fait le ménage dans nos finances publiques depuis Lucien Bouchard, etc. Donc, un peu d'éducation sur la longue marche du Québec vers le déficit zéro et les sacrifices que ça a comporté. Mais c'est pas ça le cœur de l'affaire. Le cœur de la rencontre et du message du Québec, ça va porter sur le gazoduc.
Ben oui, c'est sûr.
C'est le gazoduc d'Énergie Saguenay, Louis.
Ben oui.
Et ce que va dire Éric Girard, il va dire, écoutez-nous bien, là, les Albertains, là, M. Kenney, M. Taze, on a un préjugé très favorable au projet. OK? Et soyons pragmatiques. Il y a juste un projet de gazoduc qui est sur la table présentement. Il y a juste un projet de pipeline qui est sur la table présentement, puis c'est le projet du gazoduc. Il n'y a pas un projet de pipeline pour du pétrole.
Non, le pétrole, ça va être non. Ça, ils ne peuvent pas passer le pétrole. Mais le gazoduc, en fait, ce qu'ils ont fait avec le gazoduc, d'abord, ils évitent la ville de Montréal. La raison pour laquelle ils passent à partir de l'Abitibi puis ils s'en vont jusqu'au Saguenay, c'est pour éviter toute la vallée du Saint-Laurent.
Et voilà.
Parce qu'il n'y a aucune acceptabilité sociale pour la vallée du Saint-Laurent.
Exact.
Mais en haut, ça passe.
Ben ça passe. On verra les Autochtones, là.
Oui, hein, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de... Parce que, bon, ils ont des garanties. Puis
c'est 14 milliards. Hein, c'est un projet
exactement.
De...
C'est un gros projet.
Et l'usine de liquéfaction, il ne faut pas l'oublier, à Saguenay, ça, c'est les deux ensemble, c'est 14 milliards. Donc, ils vont se servir de ça, dans le fond, du projet de gazoduc pour dire à Kenney, écoute, là, travaillons là-dessus, baisse le ton. Ils sont confiants que si ce projet de gazoduc fonctionne, son projet là, de faire un référendum, éventuellement, sa péréquation, là, ça pourrait mourir de sa belle mort. En tout cas, c'est un peu le calcul politique qu'il y a derrière ça, mais il y a un autre calcul un peu plus crapaud. Ils me disent, tu sais, Kenney, il est très influent dans le camp conservateur. D'une certaine façon, c'est l'âme dirigeante de la droite conservatrice au Canada. Il est proche de Scheer, le chef conservateur. Il est proche de Ford, premier ministre de l'Ontario. Il est proche du premier ministre conservateur Nouveau-Brunswick. Même chose pour celui du Manitoba. Même chose pour celui de la Saskatchewan. Comme on me dit, à Québec, on ne sait pas ce que l'élection fédérale nous réserve. Ça pourrait être un bon investissement pour le Québec que de tendre la main et d'amorcer ce rapprochement avec l'Alberta aujourd'hui à travers cette rencontre donc d'Éric Girard avec le nouveau gouvernement de Jason Kenney. Voilà.
Et on va terminer avec le règlement Athéna sur les boissons sucrées. T'as appris que ça devrait normalement entrer en vigueur aujourd'hui, c'est ça?
Et voilà, exactement. La ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas-Taylor, va confirmer plus tard aujourd'hui les changements aux règles qui encadrent les fameuses boissons alcoolisées, là, très, très sucrées. Alors, ça entre immédiatement en vigueur aujourd'hui, dès que le communiqué sera émis. On pourra l'appeler le règlement Athéna, à la mémoire de la petite Athéna qui est décédée, tu te rappelles, noyée derrière son école après avoir consommé du fucked up. Donc, la nouvelle règle va prévoir que les boissons comme fucked up qui contiennent 11,9% d'alcool pour la canette standard, là, 568 millilitres, elle ne contiendra plus cette canette que 4,5% d'alcool. Dans les faits, une canette comme Fucked Up qui a 4 portions d'alcool va maintenant être limitée à 1,5 portion maximum. C'est à peu près la même quantité que les coolers ou les bières. Alors, la consultation officielle a eu lieu. Pas de délai. Ça entre en vigueur maintenant. Et Mme Petitpas-Taylor, évidemment, va dire que c'est une décision qui vise à protéger nos jeunes. S'il y a encore des canettes comme ça, Louis, qui sont sur les tablettes, elles vont devoir être retirées dès aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle.
Oh, je pense que oui.
Hein, on s'entend qu'à un moment donné, on n'a pas besoin d'être ça. Puis, tu sais, c'est un bel exemple, je trouve, la politique qui agit concrètement, là, puis qui va changer quelque chose dans la vie des jeunes, la vie des jeunes.
Mais c'est juste de valeur qu'on soit obligé d'avoir des décès pour en arriver à des politiques qui, à un moment donné, tu te dis, ça a plein de bon sens, mais...
Pourquoi on ne l'a pas fait avant?
Pourquoi on ne l'a pas fait avant?
Voilà. Je te souhaite une bonne journée.
À toi aussi.